Chapitre 23. James Whistler. Rien au monde n'est plus sacré qu'une mère. Lily était devenue brutale à l'école. L'annonce du divorce de ses parents avait précipité son entrée dans l'adolescence. Et cela se sentait dans son langage et son ton. Elle venait d'avoir 11 ans seulement, mais déjà, elle y intégrait ce mélange d'agressivité et de détachement qui contraste si fort avec la spontanéité joyeuse de l'enfance. Malgré l'inconfort, elle refusait désormais de porter son cartable sur les deux épaules, préférait qu'il pende sur une seule des lanières de façon négligée. Madame Adji surveillait ses accès de sourde violence. Lily, quoique discrètement, chiffonnait, cassait, tailladait, maltraitait ses biens les plus divers, du simple mouchoir en papier aux montures de ses lunettes. Les premiers sentiments d'injustice de la vie tiennent souvent à un détail, dont l'impact est inversement proportionnel à la cause qui l'a suscité. Jean-Jacques Rousseau, dans ses Confessions, s'échinait encore, 50 ans après les faits, à clamer son innocence dans une affaire domestique. On l'avait accusé, à tort, d'avoir brisé les dents d'un peigne. Cette futile histoire d'un objet dégradé et d'une punition imméritée structura une part substantielle de l'existence du futur philosophe, et par conséquent, infusa la pensée littéraire et politique de l'Europe libérale entière. Oui, il y a un morceau de peigne cassé dans le contrat social qui lie les démocraties modernes. Or, si l'on avait sondé le cœur tordu de Lily, qui aurait-on vu? Évidemment, le désamour entre son père et sa mère, le départ pour un autre pays où ses amis Jade et Mona ne seraient plus. Pourtant, son véritable sentiment d'injustice, celui qui lui donnait envie de broyer tout ce qui lui passait entre les mains, n'était pas là. Il ne se manifestait qu'en filigrane, et il fallut la perspicacité de Mona pour le saisir. Tandis qu'elle travaillait sur la maquette de leur projet de fin d'année, Lily s'énervait. Elle traçait la version miniaturisée de sa cuisine, mais ne cessait de se braquer sur la litière de son chat et trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour lui. Mona se souvint soudain de ce qu'avait confié sa camarade dans la cour de récréation. « Mon chat, on ne sait pas s'il sera du voyage en Italie », avait-elle dit. Aussi lui demanda-t-elle ce qu'il adviendrait de lui à l'heure du déménagement. Et Lily, gardant le silence, se contenta de déchirer la feuille. Mona comprit alors que c'était cela qui, au plus profond de son amie, était intolérable. Ses parents ne s'en souciaient pas. Peut-être même avait-il déjà scellé son destin et prévu de le donner ou, qui sait, de l'abandonner. Toute la violence de Lily se nichait dans cet abîme, qui, pour des grands, était sans importance. La question du chat, insignifiante pour leur propre égoïsme du moment, s'avérait pourtant le désastre de leur enfant. Et il n'y avait qu'un autre enfant pour le voir. Mona eut une idée. Cette maquette de cuisine était inutile. Il fallait imaginer celle de la chambre de Lily en Italie. Modéliser ses souhaits et non ses regrets. Qui aurait-il? Un lit pour elle, évidemment. Un lit superposé pour Jade, qui adorait dormir en hauteur, et un matelas d'appoint pour Mona, qui ne faisait jamais la difficile. Et puis un petit bureau, des tas de placards. Mais surtout, suggéra Mona à Lily, il y aurait dans cette maquette un panier pour le chat, un magnifique panier aux allures de cocon, rembourré et rouge vif. Un panier qui signifierait que cet animal était comme un jumeau.
Ils se séparent peut-être, tes parents. Mais auront-ils la méchanceté de te séparer de ton petit frère ?
Glissa Mona. Peut-être pas, se rassura Lily en l'étreignant de toutes ses forces. Ce mercredi, Henri expliqua à sa petite fille qu'ils avaient rendez-vous avec une figure déjà rencontrée au musée d'Orsay.
Manet ?
Presque, répondit le vieil homme. Mais ce n'était pas lui. Sur le tableau de Fantin, siégeait parmi les artistes de l'Assemblée un Américain, James Whistler. Mona se souvenait de sa fière allure, et elle allait donc découvrir un grand portrait de sa main, d'un curieux format légèrement horizontal et presque carré. Une vieille femme, aux cheveux gris ramassés sous un bonnet de dentelle dont les brides coulaient sur les épaules, était assise de profil sur une modeste chaise en bois dont on ne voyait que les deux fins barreaux arrière. Son visage craquelé de quelques rides au menton et rosi aux pommettes fixait, œil grand ouvert et sourcils relevés, un point hors champ vers la gauche de la composition. Elle formait une haute masse noire et austère, dans une robe ample qui ne laissait qu'à peine dépasser le bout de ses chaussures calées et serrées sur un repousse-pied en bois. Elle avait les mains jointes sur les cuisses et y tenait un mouchoir dont le tissu blanc se mêlait à la pâleur des doigts et aux extrémités claires des manches. La pose était certes rigide, mais la silhouette dessinée depuis le buste jusqu'au mollet formait avec souplesse une courbe et une contre-courbe. Autour d'elle, tout était dans les gris, de nuances différentes certes, mais invariablement gris, sans aucune couleur chaude. Le modèle jouxtait un mur d'un grisé clair qui occupait près des trois quarts de la largeur et soutenu par une plinthe sombre. À gauche de l'œuvre, sur le grand quart restant, une tenture brodée tombait jusqu'au ras du sol, lequel était couvert d'un très modeste tapis déchiré, peint d'une couche si légère qu'il paraissait se fondre avec le parterre en bois. Sur le rideau, l'on distinguait entre les plis quelques vagues motifs, des lignes obliques et des points semblables à des pétales, ainsi qu'un monogramme. En hauteur, à proximité de la tenture, quelque peu décentrée par rapport à l'ensemble de la composition, était accroché un petit tableau de format horizontal dont les tons neutres suggéraient un paysage avec une grève et des bâtiments à l'arrière-plan. Mona, au terme de sa longue séance d'observation, fit remarquer à son grand-père l'étrangeté du titre du tableau du jour, qui était comme dédoublé. « Arrangement en gris et noir numéro 1 » dit aussi « Portrait de la mère de l'artiste ». Whistler utilise le terme « arrangement », qui fait partie du vocabulaire musical, un vocabulaire qu'il a l'habitude d'intégrer dans ses titres. Il avait parlé de « symphonie en blanc » pour le portrait d'une de ses amantes, d'harmonie ou encore de nocturne pour ses paysages, faits de dilution, de transparence.
« Oui, mais, Dadé, la dame sur sa chaise, elle a plutôt l'air dans le silence. Et puis, pardon, tu parles de transparence, mais regarde sa robe noire, elle est bien épaisse. »
« C'est vrai. Il n'en reste pas moins que cette masse noire est le pivot autour duquel nous savourons les couleurs pour elles-mêmes, leur façon de s'accorder, de se moduler, de se répondre, de contraster aussi, sans se soucier de savoir ce qui est représenté, exactement comme on pourrait s'enchanter d'une mélodie. Le plaisir de ce tableau naît ainsi d'un jeu entre les différents rectangles et leurs nuances. Il y a cette grande bande horizontale de couleur bistre pour le sol, surmontée de la plinthe brune. Il y a aussi, en guise de contrepoint vertical, la tenture taupe constellée de touches d'un jaune discret. Et puis surtout, le mur perle, qui occupe la majeure partie de l'espace selon un format 4/3, c'est-à-dire un format dont la largeur est 1/3 plus grand que la hauteur. Pour l'anecdote, cette proportion très agréable à l'œil, très équilibrée, sera plus tard celle utilisée pour les classiques du cinéma muet, et à compter des années 1950, pour les téléviseurs.
Tu oublies qu'il y a dans le tableau un autre tableau accroché au mur. Qu'est-ce que c'est ?
C'est une gravure de Whistler lui-même. Elle est supposée figurer la Tamise, mais les contours sont délavés et correspondent au climat nébuleux que crée le jeu des gris, des noirs et des blancs. La gravure participe à l'atmosphère de flou musical. Whistler s'inspire aussi beaucoup des estampes japonaises joliment nommées ukiyo-e, ce qui signifie « monde flottant » ou « monde impermanent ». À cette époque où l'on redécouvrait la culture de l'Asie, Whistler avait d'ailleurs pour artiste préféré Hokusai, le célèbre auteur de « La Grande Vague ». Il n'est pas étonnant dès lors que le tissu sur la gauche, avec ses motifs constellés et sinueux suggérant une floraison, soit de style japonisant. C'était d'ailleurs un kimono reconverti en tenture.
Et on dirait qu'il y a aussi quelque chose d'écrit dessus, en haut, près du bord.
Ça, c'est le papillon qui lui sert de signature. Vois-tu, Whistler avait connu une profonde mutation personnelle en 1866. Il avait soudain embarqué sur un bateau et quitté sur un coup de tête l'Europe pour aller se battre à Valparaiso, auprès des Chiliens et contre les colons espagnols à l'autre bout du monde. De son existence entière, il n'expliquera jamais cet engagement, d'apparence insensée dans un conflit qui lui était étranger. Cela reste un des mystères les plus fascinants dans une vie d'artiste. Il revint changé. On le connaissait charmeur et fantaisiste. Il devint irascible, violent et revanchard. Ce papillon, c'est sa métamorphose.
Mais il voulait sa revanche contre qui ?
Contre tout le monde. Mais plus encore contre le peintre et le style qu'il avait le plus admiré dans sa jeunesse, le réalisme de Courbet.
Celui d'un enterrement à Ornans.
Lui-même. Il avait été son modèle et son ami. Il devint son ennemi. Whistler le considérait comme la cause de son fourvoiement esthétique, chercha à s'en démarquer et à développer l'aspect immatériel de son style, dans la continuité de Turner. Et face à sa facture de plus en plus éthérée, l'important critique, John Ruskin, finit même par lui reprocher de se contenter de jeter un pot de peinture à la face du public.
« Bah, moi, tu vois, cette dame en noir, elle me faisait justement penser à toutes celles de l'enterrement. »
On ne se débarrasse pas si facilement de ceux qu'on a admirés.
Sauf qu'on dirait que Whistler s'est trompé de sens. Il aurait mieux fait de se mettre devant elle pour faire son portrait.
Il fait, comme on dit, un pas de côté. Au lieu de portraiturer son modèle frontalement, il se décale et vise le profil.
Quoique modeste, ce changement de point de vue est une transgression,
car les artistes ont plutôt l'habitude de sonder l'expression d'un visage pour révéler le caractère de la personne.
Là, il s'agit d'une silhouette, presque semblable à un papier découpé et collé. Si c'est la maman de l'artiste, il devait beaucoup l'aimer, j'imagine.
Il l'adorait. Et quand il revient de son échappée à Valparaiso, il se réinstalle auprès d'elle, à Londres. Ce tableau, si ambitieux sur le plan pictural et intellectuel, peut donc plus simplement être considéré comme une déclaration d'amour à sa mère. Whistler s'était illustré au début des années 1860 en portraitiste de belles jeunes filles vêtues de blanc, couleur symbolique de la pureté, d'une fraîcheur offerte à la vie. 10 années plus tard, il vénère sa mère en noir, ce qui donne à l'œuvre une atmosphère pieuse et mélancolique. C'est sa manière de la statuer avant qu'elle ne disparaisse.
Est-ce qu'elle était vieille et malade ?
Non, elle n'avait que 67 ans, et elle mourra une décennie plus tard. Whistler avait non seulement développé un lien affectif très fort avec elle, mais il dédoubla cette affection en s'attachant à ce portrait, au point de ne pas vouloir s'en séparer. Il a fallu que la France le lui achète en 1891 pour qu'il finisse par accepter de le céder.
Attends, Dadé, tu me dis que Whistler est américain, qu'il part au Chili, qu'il revient à Londres, et voilà maintenant que le tableau finit en France.
Les Anglais ne l'avaient pas aimé quand Whistler le montra en 1872. Ils étaient hostiles à l'audace du cadrage et du décor blême. Quant aux États-Unis, ils ne le découvrent pleinement qu'en 1933, lorsque la France consent à le prêter pour qu'il tourne dans plusieurs villes américaines. Il y rencontra un tel succès que le président américain Franklin Delano Roosevelt, en personne, choisit cette image pour éditer un timbre sur lequel était écrit « En l'honneur et en souvenir des mères de l'Amérique ». Puis, en 1838, le portrait inspira un monument en Pennsylvanie. On reprit le profil de Mrs. Whistler, on en tira une statue en bronze et on l'installa au sommet de la ville d'Ashland, avec l'inscription suivante « Rien au monde n'est plus sacré qu'une mère ». L'œuvre était devenue l'icône de l'amour filial et du respect familial.
Chaque fois qu'on voit une œuvre d'Adé, il y a un moment où tu vas m'annoncer « Voilà ce que nous dit ce tableau ». Mais là, c'est difficile de savoir ce que tu veux. Si je te comprends, le tableau nous dit qu'une mère, c'est sacré, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il nous dit aussi que devant une peinture, les couleurs comptent plus que ce qui est peint. Dis donc, c'est très différent.
Henri fut soufflé par l'intelligence de Mona. Sa petite fille avait donc intégré très exactement la mécanique de ses séances devant les œuvres. Elle était désormais capable d'anticiper leur précipité morale ou philosophique. Avec ses mots à elle, la double déduction qu'elle venait de faire de la leçon du jour cristallisait deux conceptions de l'histoire de l'art. L'une était surtout iconographique et attachée à comprendre ce que les images disent du monde. L'autre était dite formaliste et envisageait une œuvre comme une entité autonome, sans grand souci de la réalité extérieure. « Le confort, reprit-il, ce serait de considérer que le tableau nous dit un peu des deux. Mais tu as raison, c'est très différent. Eh bien, ce que je te demande, c'est de décider, toi. Que doit nous apprendre cette pièce, moitié arrangement et moitié portrait? Que toute mère est sacrée? Ou bien que la peinture est d'abord un pur espace de forme et de couleur? » L'esprit de Mona oscilla. Certes, la petite fille en elle s'avérait d'emblée encline à voir cette effigie signée Whistler comme un hommage aux mères. Cependant, elle sentait que le second choix eût été plus mature par l'exigence intellectuelle qu'elle y pressentait. La réponse qu'elle s'apprêtait à donner n'aurait donc rien d'anodin. Cela créait en elle un tourbillon inattendu. Ah, elle aimait tant la façon dont son grand-père lui parlait en adulte qu'il fallait se montrer à la hauteur de cette folle confiance qui les unissait. Ainsi flottèrent longtemps, très longtemps sur ses lèvres, les mots d'une experte consciente de l'immense tournant que représentait Whistler dans l'histoire de l'art. Sauf que ces mots avertis et savants ne firent que flotter, sans se matérialiser ni sortir. Les paroles qui émanèrent de sa bouche furent tout autres. « Ce que nous dit le tableau, souffla-t-elle avec innocence, c'est qu'une maman, c'est ce qu'il y a de plus sacré au monde. » Henri se tut. « Zut !» songea l'enfant. Dadé aurait voulu m'entendre parler de forme et de couleur. Mais Dadé, devant cette bienveillance fondamentale, était heureux comme jamais un grand-père ne l'avait été. Son corps tremblait d'émotions contenues. Comment pouvait-il avoir cette chance de posséder une petite fille si extraordinaire? Peindre, c'était d'abord aimer.